Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de Roger Saboureau, assisté de Martine Dubost et Patrice Boissy. Diffusé en direct lundi 21 septembre 2015 de midi à 13h30. Il est diffusé en différé dans l'après-midi de 16h à 17h30. Mardi 22 dans la nuit de minuit à 1h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Claudio. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou encore par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr.
Chers auditeurs et amis, bonjour. Une annonce tout d'abord. Anne Brassier vous invite à lire sous les pommiers. C'est une vente dédicace qui aura lieu le dimanche 4 octobre de 13h à 18h à la ville d'Ancretteville-sur-Mer, en Seine-Maritime, à 8 km de Fécamp. Vous rencontrerez bien de nos amis, Roger Hollinde, le père Argouache, Rénal Sécher et bien sûr Anne Brassier elle-même. Voilà. Dans quelques jours, le 25 septembre, date de la journée d'hommage aux harkis, les cérémonies habituelles en rassembleront les survivants. C'est bien peu, eu égard aux sacrifices consentis par ces hommes et ces familles déracinées, qui paient encore si longtemps après d'avoir cru en la France et son chef de l'époque. Je constate en effet au mieux le silence, mais le plus souvent l'hostilité, la calomnie, l'histoire déformée sur tout ce qui touche à l'Algérie. S'agissant du silence... Et alors que d'innombrables journaux télévisuels sont consacrés actuellement à ce qu'il est désormais convenu d'appeler les réfugiés, aucun rappel, aucune référence à ceux de 1962. Lors d'une émission récente sur la 2, consacrée à ce sujet, il a été évoqué avec des images fortes tous les exodes qui ont marqué le XXe siècle qui n'en a pas manqué. Une recension complète et très illustrée de toutes ces catégories de réfugiés dans le monde entier pendant 100 ans. Ne manquaient que ceux d'Algérie, Européens et harkis rescapés, débarquant dans une grande détresse après avoir dû quitter leur pays natal dans les pires conditions et pour toujours. C'est à ce genre d'oubli qu'on peut juger de la partialité de nos médias. Ce silence à leur sujet, nous ne le pratiquons pas. Que ce soit dans le cadre de Radio Courtoisie, où plusieurs émissions viennent de leur être consacrées, dont celle hier soir de notre ami l'excellent Didier Rochard, ou dans celui du Secours de France. Je rappelle pour ceux qui l'ignoreraient encore que créé à la fin du conflit algérien pour venir en aide aux victimes de la guerre d'Algérie, objet de ses statuts, le Secours de France œuvre depuis et pour l'essentiel en faveur des plus démunis d'entre eux, les harkis et leurs familles, et plus récemment par l'attribution de bourses d'études à leurs petits-enfants. Il est à noter que cette association qui a au cours des années aider des milliers de ces vieux soldats et leurs descendants n'a jamais bénéficié d'un centime de subvention de l'État. Il est vrai que celui-ci a d'autres chats à fouetter, d'autres causes à soutenir. Je constate cependant avec bonheur que les Français, en tout cas un nombre non négligeable d'entre eux, conservent encore de cette période et de ces malheurs le souvenir et peut-être le remords. Et leur générosité nous permet de continuer notre mission. Qu'ils en soient très chaleureusement remerciés. Nous allons aujourd'hui nous pencher sur le sort de leurs enfants, de leur propre vécu, de leurs attentes, de leurs revendications, de leur intégration dans la société française et de leur réaction face aux problèmes de la France aujourd'hui, crise, chômage, immigration, insécurité, montée de l'islamisme radical. Pour ce faire, avec Martine Dubos, notre assistante, avec Patrice Boissy, nous avons invité Baya Moussaoui, fille de Harki, militante politique et candidate du Front National aux dernières départementales. Jacques Halim, il est conseiller municipal de Dreux, président de l'association Agir pour les Harkis. Mohamed Hadouche, il est membre de Agir et un vieil ami et un participant à notre film Harkis, histoire d'un abandon. Nous aurons au téléphone Dalida Benbrahim, j'espère qu'elle est au téléphone. Dalida Benbrahim,
oui,
elle
bonjour.
Est la fille du lieutenant Youssef Benbrahim, officier harki du fameux commando Georges, qui a donné son nom à une promotion d'officier de l'école d'application de l'infanterie. Dalida, êtes-vous au téléphone ?
Je suis au téléphone, bonjour.
Je mets le micro.
Je vous en prie.
Vous nous entendez, Dalida ?
Je vous entends.
Très bien.
Bonjour.
Bonjour. Bien, Dalida, vous avez une histoire importante. Votre père a été un personnage considérable. Je rappelle qu'il a été, dans un premier temps, membre du FLN, qu'il a quitté pour rejoindre les forces de l'armée française.
Absolument.
Et qu'au cours de cette période, il a glané, si le mot est juste, 11 citations sur sa valeur militaire, ce qui est tout à fait rarissime et qui en fait, je le dis tout simplement, un des héros de cette période. Un héros.
Absolument.
Voilà.
Absolument. J'en suis très fière et je le répéterai sans arrêt, c'est que pour moi c'était un seigneur. Oui, c'est un seigneur de guerre.
Ceux qui l'ont connu, je ne suis malheureusement pas de ce cas, le disent absolument, le confirment. C'est un seigneur de la guerre, mais également par ses engagements.
Et ses engagements.
Voilà.
Oui.
Alors, pour ce qui vous concerne, vous êtes né en métropole, bien sûr.
Oui.
Sur vos premières années, quel sentiment avez-vous eu, en particulier à l'école? Comment avez-vous été reçu? Je disais récemment à Jeannette Bougrab, que nous avons reçu il y a quelques semaines, quelques mois, nous disait que ses scolarités avaient été marquées par une hostilité assez grande des Européens, des jeunes Européens, parce qu'elle était arabe, et une hostilité non moins grande des Arabes parce qu'elle était fille de Harki. Est-ce que vous avez vécu ça ?
Je l'ai vécu, oui, comme la plupart des enfants de Harki, oui, bien sûr, de la discrimination raciale. Nous étions, oui, les enfants de traîtres. Et puis surtout, on a bercé dans l'école on est arrivés, j'habite dans un petit village et les instituteurs étaient des communistes. Donc évidemment, on était mal vus. Voilà. Et oui, on en a beaucoup souffert, surtout moi.
Ma pauvre. Bien, alors chacun d'entre vous a une expérience différente, ce que je souhaite. Baya, qu'avez-vous connu, vous, de ce type ?
Alors moi, effectivement, donc je suis née en métropole également. Je suis née à Roubaix, il y a 48 ans maintenant. Je suis issue d'une famille de 4 filles. Et lorsque nous sommes arrivés donc avec nos parents après la guerre d'indépendance, nous sommes donc arrivés dans cette commune qui était un point d'arrivée donc des Harkis. Et nous avons vécu de manière très précaire, comme beaucoup de Harkis et avec leurs enfants, donc sur la commune de Roubaix, où mes parents, par contre, ont eu peut-être, je ne sais pas si c'est une sagesse, mais une forme de réflexe, d'instinct de survie, c'est-à-dire de nous demander de ne point en parler au niveau de l'école. Et c'est vrai que ça a été un petit peu, dès le départ, un sujet tabou. L'affaire donc de la guerre d'Algérie. Voilà. Donc on était enfant de Harki, on le savait, mais il fallait absolument avancer, vivre en France et faire en sorte de ne pas trop en parler pour ne pas trop subir les conséquences de cette des conséquences surtout politiques, hein, à l'égard de nos parents et donc à l'égard aussi donc de nous les enfants. Donc il fallait le moins en parler au niveau de l'école. Et je sais que, ayant fréquenté l'école maternelle, primaire et le collège, beaucoup d'enfants comme moi, donc enfant de harkis, on évitait d'en parler effectivement à l'école pour éviter d'être davantage marginalisé par rapport aux autres enfants.
Ouais.
Voilà.
C'est bien ce que...
Excusez-moi, ouais. C'était juste aussi... on parlait de génération, en fait, entre guillemets, un peu bâillonnée. On vivait un peu dans le silence de notre histoire. Et on a été malheureusement bâillonnés par rapport à cette histoire, par instinct de survie et pour nous permettre d'avancer dans une société qui était très hostile à notre arrivée.
Mohamed, est-ce que vous avez eu le même sentiment par rapport à ce que vous avez dit dans notre film? Votre vécu est un peu différent.
De mes deux consoeurs qui viennent de s'exprimer, ou de mes deux compatriotes plutôt qui viennent de s'exprimer, oui, le parcours était différent, dans le sens où moi, je suis né en Algérie.
Ouais.
Et vous évoquiez en introduction un peu les réfugiés, ces images terribles ont provoqué chez moi des souvenirs assez douloureux. C'est exactement la même chose. Nos parents qui s'en allaient vers les casernes et qui étaient refoulés des casernes parce que le pouvoir politique en 1962 avait interdit le rapatriement des harkis. C'est un peu ce souvenir que déclenche en moi la vague des réfugiés qui essaient de rentrer en Europe. C'est barbelé, ça me rappelle tout à fait ça. Donc ça crée un sentiment un peu de frustration, des souvenirs assez douloureux en tout cas.
D'émotion, voilà. En tout cas.
D'émotion, oui. Au-delà, donc, nous, on est arrivés dans les camps, et pour ne pas le nommer, à Rivesaltes.
Bien connu.
Les familles étaient plus ou moins séparées. Certains se sont retrouvés à Rivesaltes, d'autres à Saint-Maurice, au Larzac, à Bourg-Lastic. Puis après, il a fallu courir après les membres de sa famille pour pouvoir les regrouper. Quand je parle de famille, au sens large, les frères, les sœurs, etc. Et les deux années, les deux premières années de mon séjour en France, ou de mon arrivée, de notre installation en France, c'est l'école dans le camp.
C'est l'école dans le camp.
Donc, pas de relation avec...
Entre famille
avec,
et harkis.
Voilà, entre famille et harkis. Donc, vraiment, les enseignants ont fait des progrès en arabe ou en kabyle ou en berbère, mais nous, très peu de progrès en français. Puisque la plupart d'entre nous ne parlions pas le français. Donc 2 ans à Rivesaltes, à ce régime-là, c'est les militaires qui nous faisaient classe. Puis après, c'est l'éclatement. Certains sont allés dans les grands centres économiques dans le nord de la France, Paris, l'Est, le Nord, ou la Normandie pour certains. Et d'autres, ont naturellement été dirigés vers des hameaux de forestage. L'entretien de la forêt méditerranéenne, qui était la proie des flammes. Et mes parents faisaient partie de cela. Donc on est resté là aussi 2 ans dans une belle région qui est le Var, ensoleillée. Mais on était entre nous, le camp était à l'écart, on devait être à 3 km de la ville. Mais là, au moins, on avait un avantage, c'est qu'on était scolarisés. Pour le mien, enfin, le camp où j'étais, on était scolarisés avec les petits Français.
Quelle ville ?
Le Muy, pour ne pas le citer. Traversé par la Nationale 7, pas loin de... entre Draguignan et Saint-Raphaël ou Fréjus. Et voilà, c'est là réellement où j'ai appris le français.
Alors par contre, ensuite, à Rouen, puisque vous êtes passé par la Normandie,
oui.
Vous avez eu la chance de tomber sur un instituteur qui a été, je dirais, pour vous... remarquable.
J'aime pas beaucoup parler de mon histoire personnelle, mais bon, puisque vous me le demandez, après le Muy, après le Var, donc 2 ans là-bas, on était destiné à rejoindre un centre de formation pour les enfants de harkis qui avait été créé à Angles, pour ne pas le nommer, dans les Alpes de Haute-Provence. Un petit village d'une centaine d'habitants à peu près, qui a d'ailleurs accueilli le premier 25 familles de harkis, qui étaient les premiers rapatriés quasiment. Ils ont été accueillis à Angles sous l'effet du lieutenant Durand, qui est décédé depuis malheureusement. Et Voilà, donc j'étais destiné à aller là-bas pour apprendre un métier dans la menuiserie, il me semble. On m'avait demandé à l'époque ce que je voulais faire. Comme je n'en avais aucune idée, j'ai dit la menuiserie, ou plutôt la serrurerie, pardon, pour être plus correct, plus exact.
Et aujourd'hui, vous êtes dans la banque.
Pas du tout, je ne suis pas dans la banque, mais c'est tout à fait normal, oui. Je n'ai jamais mis les pieds dans ce centre de formation, parce que mes parents, ou ma famille plutôt, a quitté le hameau juste avant d'y aller. Et on s'est retrouvé à Rouen, dans la banlieue de Rouen, où là j'ai fréquenté l'école avec les autres. Et ce qu'il faut préciser, c'est que la plupart de ceux de ma génération qui étaient arrivés en France en étant nés en Algérie avaient une dizaine d'années, voire donc en 66. Ben, j'avais 13 ans, donc l'âge scolaire à l'époque, la scolarité obligatoire, pardon, c'était 14 ans.
Ouais.
Voilà, la fin de l'année scolaire arrive, je me retrouve un peu sur le carreau, ne sachant pas quoi faire. Et là, j'ai eu la chance de tomber sur des gens qui étaient merveilleux. Le directeur de l'école primaire, où j'étais, et le proviseur du collège, qui nous a accueillis. J'étais mis dans un premier temps dans un... comment dire, dans une école un peu d'attente. C'est en quatrième pratique, je crois, à l'époque. C'est juste vraiment d'attendre d'avoir les 14 ans puis d'être mis sur le marché du travail, quoi. Donc je suis allé revoir le directeur de l'école primaire. Je lui ai dit, écoutez, là où je suis, ça ne me plaît pas du tout. Moi, ce que j'avais emmené ma mère avec moi, qui, la pauvre, malheureusement, ne comprenait pas le français. Mais elle me soutenait dans ce que j'avais entrepris. Et j'ai expliqué au directeur que je souhaitais faire des études, etc. Il a appelé son collègue au collège. Ils se sont mis d'accord. Ils m'ont donné la chance en me disant, bon, écoute, on te prend à l'essai pour un trimestre. Si ça marche, on te garde. Si ça marche pas, on te... Et c'est comme ça que j'ai intégré directement la cinquième du collège. Et puis voilà, j'ai fait un petit parcours, mais... Voilà, rapidement brossé, mais je n'aime pas beaucoup parler de moi.
Non, ce qui veut dire que votre expérience, contrairement à tel ou tel autre, n'a pas été totalement négative dans votre...
Loin de là.
Ça rachète un peu.
Absolument.
Jacques Halim, vous
Moi, c'est vraiment différent, parce que moi, je suis né à Dreux, hein. Je suis né en 1969. On va dire, papa et maman... Oui. Ah, donc je disais que j'étais donc né à Dreux. Je suis né à Dreux, pardon. Et donc moi, si vous voulez, c'est un peu différent. C'est parce que moi, après la guerre d'Algérie, mon père a été prisonnier. Il était prisonnier en Algérie. Le motif d'incarcération, c'était Harki. Donc il est resté 7 ans en prison en Algérie. En 67, il a quitté l'Algérie pour regagner la France. Ensuite, il s'est retrouvé aussi dans un camp à Saint-Maurice-Ardoise avec ma maman. Et là, je veux dire que grâce à son beau-frère qui habitait Dreux, qui était venu lui rendre visite, il a suivi son beau-frère. En gros, ma maman, le souvenir de ma mère dans les camps, c'était penser que revenir en France, c'était être accueilli comme des héros. Mais finalement, elle était plutôt déçue parce que il y avait un couvre-feu dans les camps, on n'avait pas le droit de faire la fête à partir de 10h. Donc grâce au beau-frère et donc aussi au mari de ma tante, parce que c'est aussi ma tante, mes parents sont arrivés à Dreux. Et là, moi, je suis né à Dreux dans un quartier où il y a principalement des harkis, mais s'il y avait aussi la mixité, hein, on va dire des Français métropolitains, des Portugais, c'était assez différent. J'ai intégré l'école de la République. Moi, ça s'est bien passé à l'école. Ça s'est bien passé. Et voilà, j'ai su que j'étais un enfant de harkis, si vous voulez. On était dans un quartier, on était entre nous. Donc la notion de harki, moi enfant je ne savais pas, J'ai su que j'étais un enfant de Harki à partir de 14-15 ans. C'est quand un copain à moi, qui est tunisien, m'a insulté. Quand il dit m'insulter, quand on est enfant, on a des petites crises d'adolescence, donc j'ai un peu embêté. Et là, c'est là où il m'a parlé de mon papa, il a dit c'est pas mon papa qui s'est sauvé. Donc la première fois, ça m'a blessé. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a blessé. Bon, j'avoue que la deuxième fois, j'ai refait la même chose. Après, je me suis expliqué avec lui. Voilà, donc c'est à partir de là que j'ai appris que j'étais un enfant d'Harki, mais c'est pas que ça aussi. C'est aussi à 15 ans, quand on tombe sur les papiers de la Croix-Rouge internationale, la Croix-Rouge internationale, où là, on voit le motif d'incarcération, Harki, son jugement, ça fait mal, quoi. Et donc, c'est vrai que comme tous nos parents, la plupart ne racontaient pas leurs histoires. Donc, j'étais aussi orphelin de mon histoire. Et ça aussi, c'est difficile. Donc, mais on a quand même, avec le militantisme et nos activités, on a pu, avec les aides de nos amis, en tout cas, on a pu aussi sortir un livre qui s'appelle Harki, soldat abandonné. Donc, je suis co-auteur. Ça a permis
de remettre l'histoire à l'endroit.
À l'endroit. Et aussi, surtout pour nous, de faire un passage intergénérationnel entre mes enfants et moi et leurs grands-parents. C'est un relais. Et ça, c'est ad vitam aeternam, c'est hyper important.
Voilà. Merci Jacques. Lors de cet exode, il semblerait que les femmes aient eu plus de mal à s'intégrer. Est-ce la conséquence d'habitudes ancestrales liées au monde arabo-musulman, en fait le même que celui des campagnes françaises de l'époque, ou simplement qu'elle vivait moins au contact des populations, surtout celles des camps? Dalida, voulez-vous nous répondre?
Ah ben, je veux bien, oui, effectivement, les femmes avaient plus de mal, et moi je pense que c'est parce que c'est assez misogyne, vous parlez des mamans ou vous parlez?
Je parle des mamans.
Vous parlez des mamans? Oui, les pauvres, oui, les mamans, effectivement, oui, avaient beaucoup plus de mal, déjà parce qu'elles ne parlaient pas la langue. Et heureusement, enfin, moi je vois en Périgord, heureusement qu'il y avait de nobles gens pour aider et puis essayer de mettre ma mère un peu en avant. Voilà, oui. Mais autrement, tout ce qui est... enfin, vous savez, quand dans le sud-ouest, c'est assez gauchiste, alors...
On va dire ça comme ça.
C'est plutôt radical socialiste.
Oui. Malheureusement.
Baya, vous, votre sentiment là-dessus, rapidement.
Oui, alors, moi, si vous voulez, mon père est décédé en 72. Donc, ma mère a été un peu livrée à elle-même. Elle était jeune, il y avait quand même 30 ans de différence d'âge avec mon père. Et puis, elle s'est retrouvée donc avec 4 filles en bas âge à élever. Donc, c'est vrai qu'au départ, c'était extrêmement rude pour elle parce qu'elle parlait très peu français et elle s'était retrouvée un petit peu projetée dans une société qu'elle connaissait très peu. Mais elle a été effectivement quand même très aidée par les voisins, le voisinage, les commerçants, les petits commerçants chez qui elle allait régulièrement. Et c'est une femme qui a cherché à comprendre, qui a cherché à s'insérer et qui a finalement trouvé dans la société française une forme d'ouverture d'esprit qui lui a permis du coup...